un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La justice européenne condamne la France pour dépassement du seuil de dioxyde d'azote. Le gouvernement se dit déterminé à améliorer la qualité de l'air. On fait le point avec Laura Lavenne dans un instant. Thierry Breton, nouveau candidat de la France à la Commission européenne. Nous verrons comment cette candidature est perçue par les parlementaires européens. L'intellectuel ouïghour Ilham Tohti, récompensé par le prix Sakharov des droits de l'homme. Nous irons en Chine faire un point sur la situation des Ouïghours. Et puis pénurie et panne d'électricité persistent au Venezuela où l'opposition appelle à une nouvelle mobilisation contre Nicolas Maduro. Reportage de Benjamin Delisle à Caracas. La France risque à présent des sanctions si elle ne fait pas plus d'efforts pour limiter les émissions de dioxyde d'azote. La Cour de justice de l'Union européenne juge que depuis 2010, la France a dépassé de manière systématique et persistante le seuil limite de ce gaz polluant issu des moteurs diesel. Bonsoir Laura Lavenne.
Bonsoir Aurélie.
La Commission européenne avait saisi la justice européenne en mai 2018 après près d'une décennie de mise en garde.
Et de mise en garde, on est passé à cette condamnation en manquement. Elle vise la France et plus précisément une dizaine de zones qui correspondent à des grandes villes. Paris, Marseille, Toulon, Montpellier ou encore Strasbourg, pour ne donner que ces exemples. Des zones où les seuils annuels de dioxyde d'azote, un gaz toxique, sont à chaque fois supérieurs à ce que prévoit la directive européenne sur la qualité de l'air. Ce qui ne surprend pas vraiment Lorelei Limousin du réseau Action Climat.
C'est vraiment un manque de courage politique, notamment face au lobby automobile qui a eu raison de nombreuses réglementations sur le climat et sur la pollution de l'air au détriment de la santé publique notamment. Il s'agit vraiment de réduire le trafic routier et tant les organismes spécialistes du climat que de la santé publique vous le diront.
La France, de son côté, ne conteste pas la condamnation en tant que telle, mais elle refuse l'argument selon lequel elle n'a rien fait ou ne ferait rien. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, assure que le gouvernement est déterminé à améliorer, je cite, rapidement et durablement la qualité de l'air, qu'il a déjà engagé des actions. Le bonus de 6 000 € pour l'achat d'une voiture électrique, la prime à la conversion et bientôt le déploiement des zones à faible émission qui sera rendu obligatoire partout où les seuils de dioxyde d'azote sont dépassés.
Et alors, Laura, que risque la France ?
Pour l'instant, pas grand-chose. Disons que cette condamnation est un avertissement. La balle est dans le camp de l'État français. Il doit se conformer à la loi européenne, sans quoi la Commission pourra de nouveau saisir la justice et cela pourra cette fois aboutir à des sanctions financières.
Laura Lavenne, le ministère de la Transition écologique publie par ailleurs un rapport sur ce qui menace l'environnement en France. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé, mais pas assez. Le réchauffement climatique se fait déjà sentir. 2018 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et les événements extrêmes se multiplient. Quant à la situation des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins français, elle est jugée préoccupante. 18% des espèces évaluées sur le territoire sont éteintes ou menacées d'extinction. Des dérivés d'hydrocarbures dans des laits en poudre pour bébés. C'est ce que l'association Foodwatch a trouvé en faisant faire des tests en laboratoire. Elle demande le rappel immédiat de ces laits en poudre Nestlé et Danone, estimant que s'il n'y a pas de danger immédiat pour les bébés, la présence d'huile minérale représente tout de même un risque pour la santé. Foodwatch avait réalisé une première série de tests il y a 4 ans et selon ses résultats, 60% des aliments de grande consommation testés étaient contaminés. Et depuis un de leurs choix, il y a eu des engagements pris par certains distributeurs, mais toujours pas de réglementation sur ce sujet.
Oui, et c'est bien ce que réclame l'ONG qui a lancé ces nouveaux tests comme un rappel pour les intéressés ministères et industriels. En 2015, ces tests donc sur des aliments secs en emballage cartonné révélaient déjà que cette contamination était très étendue. On rappelle que ces dérivés du pétrole sont indétectables à l'œil nu. On les appelle des MOA pour hydrocarbures aromatiques d'huile minérale. 4 ans plus tard, donc Foodwatch réitère ces tests, cette fois sur un produit sans cible, le lait infantile en poudre. Sur 8 des laits testés, 2 sont contaminés. Des tests qui sont ultra fiables, selon Camille Doriot, responsable de campagne chez Foodwatch.
Les tests, ils sont totalement indiscutables. On a fait des tests dans 3 laboratoires différents, des laboratoires qui sont certifiés. Et derrière, on a utilisé la méthodologie qui est en fait la méthodologie conseillée par la Commission européenne. Donc les 3 labos ont les mêmes résultats et en fait les labos confirment les résultats des uns des autres. C'est indiscutable.
Le Nidal, premier âge de Nestlé, et le Gallia, Gallia Geste croissance sans lactose de Danone sont donc dans le viseur. Les deux groupes font savoir dans 2 communiqués que leurs contrôles n'ont pas révélé de traces d'huile minérale, que leurs produits peuvent être être ingérés sans aucun risque. Foodwatch engage, elle, les consommateurs à se tourner vers d'autres produits. Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France.
L'idée, c'est absolument pas que les gens paniquent. C'est pas comme le scandale Lactalis l'année dernière où on avait de la salmonelle. Donc il n'y a pas un danger aigu, immédiat pour les tout petits. Néanmoins, soyons très sérieux, il y a un consensus scientifique sur le fait que ces substances sont potentiellement cancérogènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens. C'est largement assez pour se dire que la santé publique doit primer et qu'il faut interdire ces substances dans l'alimentation.
Enfin, sur la question de savoir comment ces dérivés d'hydrocarbures se retrouvent dans nos aliments, Foodwatch n'émet que des hypothèses, mais le plus souvent c'est l'emballage qui est incriminé. Ces huiles minérales sont en effet utilisées dans leur fabrication comme antipoussière, lubrifiant ou agent de polissage. Les industriels sont en capacité de traquer ces huiles à tous les stades, selon Foodwatch, qui appelle donc à élaborer une réglementation.
Anne Lorchouin. La filière nucléaire française est-elle capable de faire face aux défis du secteur ? Le gendarme du nucléaire semble en douter au vu de l'accumulation des déboires d'EDF. Dans un entretien aux Échos, le président de l'autorité de sûreté nucléaire se montre sévère à l'égard d'EDF et de Framatome après la découverte de problèmes de fabrication de certains composants concernant 6 réacteurs en exploitation. Mais malgré les défauts détectés sur des générateurs de vapeur installés dans 5 centrales, EDF peut poursuivre l'exploitation de ces réacteurs. Les explications de Julien Collet, directeur général adjoint de l'ASN.
C'est une anomalie qui concerne la fabrication des générateurs de vapeur des centrales nucléaires, qui sont l'un des principaux composants d'un réacteur. À partir de 2008, Framatome a mis en œuvre un nouveau procédé de traitement thermique et malheureusement, ce procédé ne respectait pas les plages de température qui étaient requises. Nous partageons la conclusion d'EDF qui est qu'à ce stade, il n'y a pas lieu d'arrêter le fonctionnement des réacteurs. Pour autant, il y a un certain nombre d'investigations complémentaires à mener. La première chose, c'est de réaliser des contrôles sur chacun de ces générateurs de vapeur lorsque le réacteur sera arrêté. L'objectif de ces contrôles, c'est de s'assurer, de confirmer qu'il n'y a pas de défaut au niveau de ces soudures. Et puis par ailleurs, de mesurer précisément l'épaisseur de la soudure. Cet événement, c'est un nouvel écart concernant l'un des composants majeurs d'un réacteur nucléaire. Et effectivement, ça met à nouveau en lumière les difficultés que rencontre l'industrie française pour la fabrication de ces équipements. Ça renvoie alors d'une part à des problèmes de compétences qu'on avait déjà soulignés, mais également à des problèmes de rigueur et d'organisation dans la réalisation des opérations.
Julien Collet au micro de Véronique Rebérotte. Ferme mise en garde du CSA à LCI. Le 28 septembre, la chaîne d'info du groupe TF1 avait diffusé en direct l'intégralité d'un discours d'Éric Zemmour qui avait notamment qualifié les immigrés de colonisateurs. Le CSA rappelle à LCI ses obligations en matière de propos discriminatoires et transmet au procureur de la République les éléments en sa possession pouvant nourrir l'enquête à l'encontre de l'essayiste. Enquête ouverte pour injure publique et provocation publique à la haine. Au deuxième jour de sa visite à La Réunion, Emmanuel Macron est allé à la rencontre des habitants d'un quartier populaire de Saint-Denis. L'an dernier, la crise des gilets jaunes avait fortement secoué l'île et la population continue de se plaindre de la vie chère. Yannick Falt a suivi les échanges du chef de l'État avec des habitants.
10h20, Emmanuel Macron arrive au Camélia, un quartier populaire mais rénové. Il est guidé par le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, socialiste, Macron compatible.
Je lui ai dit, demain, emmène-moi dans un endroit où je peux comprendre un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas.
C'est surtout autour de ce qui ne marche pas que les échanges tournent. Exemple, sur les loyers des HLM.
Avec 890 euros de loyer, c'est mort. Moi, je suis obligé de calculer sur la nourriture, tout.
Le niveau de vie est au cœur des discussions, l'emploi aussi, alors que près d'un jeune sur deux n'en a pas.
Ils sont où la place des jeunes ? Ils sont où la place des quartiers ici, sur la Réunion ? Ils sont où ? Il n'y a pas d'école.
Le ton monte au fil de la déambulation jusqu'à ce vif échange, moitié créole, moitié français.
Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Monsieur Boussin, il était là, il n'y a pas de problème. Pourquoi on rouge la route ?
Si vous faites un one-man show, ok. Mais si vous voulez discuter, je vous écoute depuis tout à l'heure, je peux répondre une minute.
Allez, vas-y.
Je comprends très bien que vous soyez fâché contre la politique et le clientélisme. Pardon de vous le dire, ça ne me concerne pas moi.
Un bain de foule d'une heure et demie au total, mélange de vrais dialogues et de dialogues de sourds.
Yannick Falt, notre envoyé spécial à Saint-Denis de La Réunion. C'est un talent de notre pays, dit de lui Emmanuel Macron, et il a les qualités et les compétences requises pour être proposé comme commissaire européen. Thierry Breton est donc le nouveau candidat désigné par Paris après le rejet de Sylvie Goulard par les eurodéputés. L'ancien ministre de l'économie et patron passionné de technologie espère hériter du marché intérieur, de l'industrie, de la défense et du numérique, un large portefeuille imaginé par la future présidente de la commission, Ursula von der Leyen. Alors Angélique Boin, est-ce que le profil de Thierry Breton convient mieux aux députés européens que celui de Sylvie Goulard ?
Il a le profil, même si ce n'est pas une femme, reconnaissent bien volontiers la plupart des eurodéputés croisés. Le Belge Philippe Lamberts co-préside le groupe des Verts qui n'avait pas été tendre avec Sylvie Goulard.
C'est probablement quelqu'un qui a le calibre, moyennant le fait qu'il n'ait pas de casserole et qu'il prouve la maîtrise des dossiers, je suppose que ça devrait aller.
Des élus qui seront attentifs au fait que l'entreprise Atos a des liens avec l'Union européenne, mais nous le ferons en toute objectivité, dit Didier Geoffroy, membre de la droite européenne et de la commission qui sera chargée de contrôler de possibles conflits d'intérêts.
Sylvie Goulard n'a pas réussi à convaincre sur son indépendance par rapport à des intérêts certes passés, mais qui étaient contradictoires avec les intérêts européens qu'elle était censée incarner comme commissaire désignée. Aujourd'hui, a priori, le profil, l'expérience peuvent laisser croire qu'il serait un bon commissaire. Nous allons étudier à la fois sa déclaration d'intérêt, et je le ferai comme membre de la commission jury, et aussi évidemment son aptitude sur le fond, sur des dossiers qui sont quand même stratégiques pour l'avenir de l'Union européenne.
Et c'est justement la taille de ce futur portefeuille XXL qui est un souci pour la socialiste allemande Evelyne Gebhardt.
Impossible pour un seul homme. Nous voulons des commissaires qui sachent vraiment aller dans le fond des dossiers. Mais s'il y en a trop, ce n'est pas possible.
Le candidat sera auditionné début novembre.
Angélique Boin à Strasbourg pour France Culture. L'enquête se poursuit au Royaume-Uni après la découverte hier de 39 corps dans un camion frigorifique à Grays, près de Londres. Les victimes sont toutes chinoises. Le chauffeur du camion, principal suspect, est toujours interrogé et sa garde à vue a été prolongée. Le reportage d'Aude Sophie.
La police a toujours pour priorité numéro 1 d'identifier ces 31 hommes et 8 femmes, tous chinois. Les corps vont être autopsiés pour déterminer la cause du décès de chacun. Dans les lieux de culte de Grays, des veillées sont organisées en mémoire des victimes.
C'est tragique, vraiment terrible, oui, c'est tellement triste. Ils cherchaient évidemment une meilleure vie.
C'est horrible, difficile à croire quand ça se passe là où vous travaillez tous les jours.
Les enquêteurs cherchent à comprendre comment ces personnes se sont retrouvées dans un camion frigorifique immatriculé en Bulgarie et arrivé de Belgique sur le territoire britannique dans la nuit de mardi à mercredi. Le chauffeur a récupéré la remorque au port de Purfleet moins d'une heure avant sa découverte dans la zone industrielle de Waterglade à Grays. L'homme de 25 ans a été arrêté hier et cet après-midi, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. 3 adresses ont été perquisitionnées en Irlande du Nord, d'où il est originaire. L'enquête ouverte par la police de l'Essex hier est la plus grande affaire de meurtre de son histoire. Elle dépasse désormais les frontières puisque les autorités chinoises, belges et bulgares y sont associées. Des réseaux de crimes organisés pourraient être impliqués. L'Agence nationale contre le crime travaille donc aussi sur le dossier.
Aude Soufi. Alors que le Liban est quasiment paralysé depuis une semaine par des manifestations, grèves et barricades, le président libanais s'est adressé pour la première fois à la nation aujourd'hui. Dans son discours, Michel Aoun propose de rencontrer des représentants des manifestants, mais il rejette la principale revendication des contestataires, à savoir le départ de l'ensemble de la classe politique. On retrouve Chloé Doma à Beyrouth.
Le discours a surpris par sa rapidité. Une dizaine de minutes seulement, préenregistrée, et aucune mesure concrète pour répondre aux attentes des centaines de milliers de Libanais qui manifestent depuis une semaine. Le chef d'État s'est contenté de soutenir les réformes annoncées lundi par le Premier ministre Saad Hariri. Il faut sauver le pays de son effondrement économique et financier, a-t-il dit. Mais ces réformes, les manifestants les ont déjà rejetées. Eux demandent la démission de tous les dirigeants actuels, la formation d'un gouvernement de technocrates et des élections anticipées. Au centre-ville de Beyrouth, les mots du président ont déçu. Drapeau libanais en main, les manifestants ont laissé exploser leur colère devant les caméras des chaînes locales. Malgré la pluie, la mobilisation ne faiblit pas. Banques, écoles et universités restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Les routes aussi, bloquées par des barrages que l'armée ne parvient que temporairement à écarter. Des rassemblements sont prévus demain et ce week-end dans tout le pays.
En Bolivie, Evo Morales revendique la victoire à l'élection présidentielle de dimanche. Le président sortant assure disposer de plus de 10 points d'avance sur son rival Carlos Mesa, ce qui exclut un second tour. L'opposition l'accuse de vouloir truquer le scrutin et lui répond que c'est un coup d'État fomenté de l'intérieur et de l'extérieur. Au Venezuela, l'opposition appelle à la mobilisation contre la crise électrique. Un peu plus de 6 mois ont passé depuis les grandes coupures d'électricité nationale qui ont paralysé le pays. Mais la situation est toujours aussi critique et les coupures restent quotidiennes. Elles peuvent durer jusqu'à 16 heures dans certaines villes vénézuéliennes. D'un côté, le gouvernement de Nicolas Maduro parle d'une guerre électrique menée par les États-Unis. De l'autre, l'opposition menée par Juan Guaido dénonce l'incurie des autorités. Les habitants de la capitale, bien que relativement épargnés par le rationnement forcé, voient les coupures se multiplier depuis plusieurs semaines. Reportage de Benjamin Delisle.
L'électricité revient à peine dans le quartier de Los Palos Grandes. Elle a sauté une petite heure en pleine journée. Dans les rues, les riverains comme Béatrice sont excédés.
Il y en a presque tout le temps. Ça dure 2, 3 heures, parfois 6 heures sans électricité. Ça abîme l'électroménager, le micro-ondes, le frigidaire, la clim, la télévision. Ça coupe le téléphone, on ne peut plus communiquer. Il se dit que la prochaine grande coupure durera très longtemps. Difficile de distinguer le vrai du faux.
Sur une place du quartier, le gérant d'un petit café obligé de fermer pendant les coupures, faute de pouvoir utiliser ses machines, s'inquiète de la récurrence des coupures de courant.
Moi, ce que je vois ici, c'est que la tendance est à la hausse. Le rationnement s'empire au lieu d'améliorer les choses.
Cette détérioration, le chercheur Victor Poléo l'explique par un déficit de 30% de la production d'électricité. Selon lui, les centrales thermoélectriques du Venezuela ne fonctionnent plus faute d'entretien et de combustible. Tout repose donc sur les centrales hydroélectriques du fleuve Caroni au sud-est. S'il y a quelques mois, le rationnement forcé de toute une partie du pays suffisait pour alimenter Caracas, il estime que ce n'est plus le cas aujourd'hui.
D'abord parce que le système se dégrade de jour en jour. Ensuite, parce qu'il est impossible, du point de vue électrique, de synchroniser les machines du Caroni avec la demande qui fluctue. Ils opèrent avec la peur immense que le système tombe à nouveau. Pour éviter cela, ils réduisent sans cesse la charge électrique.
Résultat, chaque jour ou presque, plusieurs quartiers de la capitale subissent des coupures forcées. Pour y faire face, les plus riches achètent leur propre générateur. Une aubaine pour Carlos, un garagiste qui s'est mis à en vendre juste après les grandes coupures du mois de mars.
Le marché a énormément grandi. Beaucoup d'appartements s'achètent de petits générateurs, mais on vend surtout à des résidences. Non seulement il y a beaucoup de gens qui achètent, mais surtout, il y a de plus en plus de magasins qui en proposent.
Le problème, c'est que ces générateurs fonctionnent à l'essence ou au gasoil. Et en cas de coupure généralisée, les stations-service ne fonctionnent plus. Une illustration du cercle vicieux dans lequel se trouve le Venezuela et que résume le chercheur Victor Poléo.
Sans industrie pétrolière, il n'y a plus d'industrie électrique. Et sans électricité, les raffineries et la production de pétrole ne tournent plus.
En attendant, la rumeur d'une nouvelle coupure nationale plonge les Vénézuéliens dans une angoisse de chaque instant.
Benjamin Delisle à Caracas. Après le prix Vaclav Havel le mois dernier, l'intellectuel ouïghour Ilham Tohti vient de remporter le prix Sakharov décerné par le Parlement européen. Emprisonné à perpétuité en 2014 pour séparatisme, c'est une figure de la cause ouïghour, cette minorité musulmane qui subit une vaste campagne d'internement et de répression dans l'ouest de la Chine par les autorités centrales. La correspondance de Zifan Liu à Pékin.
Le choix du Parlement européen a été salué par les défenseurs des droits de l'homme qui portent un œil attentif au traitement infligé par Pékin à la communauté ouïghour. L'information a été évidemment passée sous silence ici en Chine, qui a longtemps nié les camps d'internement dans la province du Xinjiang, où vit majoritairement cette minorité musulmane et turcophone. D'après les différentes ONG, plus d'un million de ouïghours, mais aussi des membres de la minorité kazakh, sont détenus et rééduqués pour suivre l'idéologie du parti communiste. Pékin mène cette politique répressive dans cette province au nom de la lutte contre le terrorisme et le séparatisme. En 2009, des émeutes avaient opposé des Han, l'ethnie majoritaire en Chine, à des Ouïghours qui dénonçaient cette répression brutale. Par la suite, plusieurs attaques ont été perpétrées par des Ouïghours sur le territoire chinois, dont une spectaculaire à l'aide d'une Jeep en feu sur la place Tiananmen, le cœur du pouvoir politique communiste. Depuis, les discriminations s'intensifient dans le Xinjiang où les habitants sont encouragés à apprendre le mandarin et à délaisser leur culture musulmane. En marge de cette récompense attribuée à Ilham Tohti, Strasbourg a également appelé à la libération immédiate du dissident, mais Pékin est traditionnellement inflexible, comme le prouve la mort en détention il y a 2 ans de Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix.
La situation reste tendue en Éthiopie. Des partisans de l'activiste Jawar Mohamed sont à nouveau descendus dans la rue. Les manifestants critiquent les réformes du Premier ministre et prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed. Hier, au moins 4 personnes ont été tuées dans les manifestations et il y a eu des dizaines de blessés. La météo, avec d'abord le bilan des intempéries dans le sud de la France. Elles ont fait 3 morts, des victimes découvertes dans le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Demain vendredi, le temps sera nuageux sur une grande partie du pays, avec de petites pluies sur le nord-ouest et des éclaircies de plus en plus larges au sud. Les températures minimales iront de 8 à 16 degrés. Les maximales atteindront 15 à 19 sur la moitié nord, 18 à 24 sur le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.